Chapitre 5. Viens, lui enjoignis-je. C'était le milieu de la journée, il faisait chaud et la terre s'effritait sous nos pieds. C'est tout près, un endroit parfait pour dormir et reposer tes muscles fatigués. Il me suivit d'un air boudeur. Il était toujours de mauvaise humeur lorsque le soleil était au zénith. Je n'aime pas m'éloigner autant de mon bateau. Il est en sécurité, je te le promets. Tiens, nous y sommes. Ces fleurs ne valaient-elles pas le déplacement? Elles sont jolies, du plus pâle des jaunes, et on dirait des cloches. À force de cajolerie, j'obtins qu'il s'allonge au milieu de l'étendue fleurie. J'avais apporté de l'eau et un panier de nourriture. J'étais consciente de la présence de mon père au-dessus de nous. Un pique-nique. Voilà ce que cette scène devait lui évoquer s'il jetait un coup d'œil dans notre direction. Je ne pouvais pas être sûre de ce que ma grand-mère avait pu lui raconter. Je servis Glaucos et le regardai manger. « À quoi ressemblerait-il en Dieu ?» me demandai-je. Un peu plus loin se trouvait une forêt dont l'ombre épaisse nous protégerait des yeux de mon père. Une fois que Glaucos serait changé, je l'y entraînerais et lui expliquerais que mon serment ne nous empêcherait plus d'être ensemble. Je posai un coussin par terre. « Allonge-toi, dors. Ce sera agréable de dormir, non ?»« J'ai mal à la tête, » se plaignit-il. « Et j'ai le soleil dans les yeux. » J'écartai ses cheveux de son visage, puis me plaçai devant le soleil pour bloquer ses rayons. Il était toujours fatigué, et ses paupières se fermèrent presque instantanément. Je remuai les fleurs pour qu'elles le touchent. « Maintenant, » pensais-je. « Maintenant. » Il dormit comme je l'avais vu dormir 100 fois. Dans mes fantasmes de ce moment, les fleurs le transformaient d'un simple contact. Leur sang immortel sautait dans ses veines et il se relevait Dieu, me prenait les mains en disant « Maintenant, je peux te remercier comme tu le mérites. » Je remuai de nouveau les fleurs. J'en cueillis quelques-unes que je répandis sur son torse. Je soufflai pour que leur parfum et leur pollen dérivent vers lui. « Change-le, » chuchotai-je. « Il doit devenir un dieu. Change-le. » Il dormait toujours. Autour de nous, les fleurs pendaient mollement, aussi pâles et fragiles que des ailes de papillons de nuit. Un filet d'acide s'écoulait dans mon estomac. « Peut-être n'avais-je pas trouvé les bonnes, » m'inquiétais-je. J'aurais dû venir en repérage, mais j'étais trop impatiente. Je me levai pour parcourir la colline à la recherche d'un massif de fleurs cramoisies éclatantes, d'où émanerait un pouvoir évident. Toutefois, je ne trouvai que des espèces banales, poussant n'importe où. Je m'effondrai à côté de Glaucos, en pleurs. Les larmes de celles qui possèdent un sang de naïade peuvent couler durant une éternité, et je pensais qu'il me faudrait sans doute une éternité pour laisser libre cours à mon chagrin. J'avais échoué. Aétès s'était trompé. Il n'existait pas d'herbe dotée de pouvoir. Et Glaucos s'était perdu pour moi à jamais, sa tendre beauté périssable flétrie dans la terre. Au-dessus de nos têtes, mon père glissait le long de son parcours habituel. Ses douces fleurs se balançaient stupidement sur leurs tiges autour de nous. Je les détestais. J'en saisis une poignée et les arrachai par les racines. Je déchiquetai leurs pétales, mis leurs tiges en pièces. Leurs lambeaux humides me collaient aux mains et leur sève s'écoula sur ma peau, telle une traînée de sang. Leur odeur s'éleva, brute et ascétique comme celle du vin vieilli. J'en arrachai une autre poignée, de mes mains chaudes et collantes. Mes oreilles retentissaient d'un bourdonnement sombre de ruche. Il est difficile de décrire ce qui arriva ensuite. Une certitude monta dans les profondeurs de mes veines. Elle murmurait que la force de ces fleurs résidait dans leur sève, qui transformerait n'importe quelle créature en son moi véritable. Il était inutile de me poser des questions. Le soleil avait déjà disparu à l'horizon. Les lèvres de Glaucos s'étaient ouvertes pendant qu'il rêvait, et je levai une poignée de fleurs au-dessus de lui avant de les presser. La sève coulait de plus en plus. Goutte lactée après goutte lactée, je la laissais tomber dans sa bouche. Égarée, l'une d'elles atterrit sur sa lèvre et je la glissai sur sa langue avec mon doigt. Il toussa. « Ton moi véritable, lui dis-je, qu'il en soit ainsi. » Je m'accroupis, une autre poignée en main, prête à l'emploi. Je presserai la sève de tout le champ dans sa bouche si nécessaire. Mais, alors même que je formulais cette pensée, une ombre glissa sur sa peau. Elle s'assombrit devant moi. De brune, elle devint violette, se propageant telle une meurtrissure, jusqu'à ce que tout son corps devienne du plus profond bleu marine. Ses mains enflèrent, puis ses jambes, ses épaules. Des poils se mirent à surgir de son menton, long et d'un vert cuivré. Aux endroits où béait sa tunique, je vis des plaies se former sur sa peau. J'en restai bouche bée. C'étaient des bernacles. « Glaucos !» chuchotai-je. Sous mes doigts, son bras était étrange, dur, épais et légèrement froid. Je le secouai. « Réveille-toi !» Il ouvrit les yeux. Le temps d'un soupir, il resta immobile. Ensuite, il sauta sur ses pieds, aussi imposant qu'une marée de tempête, tel le dieu des mers qu'il avait toujours été. « Circé ! » cria-t-il. « Je suis changé !» Je n'eus pas le temps d'aller dans la forêt, de la tirer sur la mousse. Il était ivre de sa force nouvelle, renaclant comme un bœuf dans l'air printanier. « Regarde !» s'émerveilla-t-il en étendant ses mains. « Pas d'égratignure, pas de croûte, et je ne suis pas fatigué. Pour la première fois de ma vie, je ne suis pas fatigué. Je pourrais traverser l'océan entier à la nage. Je veux le voir de mes propres yeux. À quoi est-ce que je ressemble ?» « À un dieu !» Il m'attrapa par les bras et me fit tournoyer, ses dents blanches ressortant sur sa peau bleue. Puis il s'arrêta, saisi d'une nouvelle pensée. « Je peux t'accompagner à présent. Je peux aller dans le palais des dieux. Tu veux bien m'y emmener ?» Il était difficile de refuser. Je l'emmenai chez ma grand-mère. Malgré mes mains qui tremblaient légèrement, les mensonges étaient prêts à jaillir de mes lèvres. Il s'était endormi dans une prairie et s'était réveillé ainsi. Peut-être que mon souhait de le transformer en immortel était une sorte de prophétie. C'est déjà arrivé avec les enfants de mon père. Elle m'écouta à peine. Elle ne se doutait de rien. Personne ne m'avait jamais soupçonné de duplicité. « Frère !» s'écria-t-elle en le prenant dans ses bras. « Le plus récent de nos frères !» « Ceci est un acte d'éparque. Tu es le bienvenu ici jusqu'à ce que tu trouves un palais qui t'appartienne. » Il ne fut plus question de marcher sur la plage. Je passai chaque jour dans ces salles du palais en compagnie de Glaucos le dieu. Nous nous asseyions sur les talus de la rivière crépusculaire de mon grand-père et je lui présentais tous mes oncles, mes tantes et mes cousins, énumérant les noms d'une nymphe après l'autre, même si, auparavant, j'aurais cru ne pas les connaître. Quant à eux, ils se massaient autour de lui, réclamant à grands cris le récit de sa miraculeuse transformation. Il la présentait bien. Sa mauvaise humeur, la somnolence qu'il avait écrasée, tel un rocher, et ensuite... le pouvoir qu'il avait soulevé, pareil à des vagues à leur paroxysme, dévolues par les parques elles-mêmes. Il dénudait son torse bleu couvert de muscles divins et exhibait ses mains, aussi lisses que des coquillages polis par le courant. « Vous voyez comment j'ai fini par devenir moi-même !» J'aimais son visage en ces moments-là, rayonnant de puissance et de joie. Ma poitrine se gonflait avec la sienne. Je brûlais de lui raconter que c'était moi qui lui avais offert ce cadeau. Néanmoins, je voyais à quel point il était heureux de croire que sa divinité lui appartenait totalement et je n'avais pas le cœur de lui enlever cette certitude. Je rêvais encore de m'étendre avec lui dans ses bois sombres, mais j'avais commencé à penser plus loin, à prononcer de nouveaux mots en mon fort intérieur. Mariage, époux. Viens, il faut que tu rencontres mon père et mon grand-père. Je choisis moi-même ses vêtements, dans les couleurs qui avantageaient le plus son teint. Je l'avertis des politesses que l'on attendait de lui et restai en retrait tandis qu'il s'en acquittait. Comme il s'en tira très bien, ils le complimentèrent. Ils l'emmenèrent trouver Néré, le vieux dieu de la mer, qui lui présenta à son tour Poséidon, son nouveau maître. Ensemble, ils l'aidèrent à aménager son palais sous-marin, avec de l'or et des trésors arrachés aux varechs des vagues. Je m'y rendais tous les jours. L'eau de mer irritait ma peau, et il était souvent trop occupé par ses visiteurs admiratifs pour me gratifier d'autre chose qu'un bref sourire. Mais cela m'était égal. Nous avions le temps maintenant, tout le temps dont nous aurions jamais besoin. C'était un plaisir de m'asseoir à ces tables en argent, contemplant la bousculade des nymphes et des dieux qui se disputaient son attention. À une époque, ils auraient ricané à son sujet, l'auraient traité de videur de poissons. À présent, ils le suppliaient de raconter ses histoires de mortels. Ces dernières s'affinaient au fur et à mesure. Sa mère au dos courbé de sorcière, son père qui le battait tous les jours. Ils s'étranglaient, une main pressée sur leur cœur. « Tout va bien !» les rassurait-il. « J'ai envoyé une vague fracasser le bateau de mon père et le choc l'a tué. Quant à ma mère, j'ai exaucé ses souhaits. Elle a un nouveau mari, une esclave pour l'aider avec le linge. Elle m'a construit un hôtel qui fume déjà. Mon village espère que je vais lui amener une marée fructueuse. »
Et le feras-tu ?
La nymphe qui avait posé la question avait les mains croisées sous le menton. Elle avait été l'une des compagnes les plus chères de ma sœur et de Persès, avec son minois rond pétri de méchanceté. Cependant, alors qu'elle s'adressait à Glaucos, même elle paraissait transformée, ouverte, aussi mûre qu'une poire. Nous verrons ce qu'ils ont à m'offrir. Parfois, lorsqu'il était très satisfait, ses pièces changeaient en une queue qui battait, et c'était le cas maintenant. Je l'observais tandis qu'elle balayait le sol en marbre, brillant du plus pâle des gris, ses écailles légèrement irisées se chevauchant les unes les autres. « Ton père est-il vraiment mort ?» lui demandai-je après leur départ.
« Bien sûr, il le méritait pour avoir blasphémé. »
Il était occupé à polir son nouveau trident, cadeau de Poséidon en personne. Pendant la journée, il paraissait sur des banquettes en buvant dans des gobelets gros comme sa tête. Il riait de la même façon que mes oncles, rugissant la bouche ouverte. Ce n'était pas n'importe quel dieu marin, un quelconque seigneur des crabes hirsutes, mais l'une des déités les plus importantes, qui pouvait s'arranger pour que les baleines leur obéissent au doigt et à l'œil, sauver des bateaux des récifs et des hauts fonds, soustraire les radeaux des marins aux vagues prêtes à les engloutir.
Cette nymphe au visage rond, se renseigna-t-il. Celle qui est si belle, comment s'appelle-t-elle ?
J'étais perdue dans mes pensées. J'imaginais la façon dont il pourrait demander ma main. Sur la plage, songeais-je. Cette grève où nous nous étions aperçus la première fois.
Tu veux parler de Scylla ?
Oui, Scylla. Elle bouge comme l'eau, n'est-ce pas ? Comme le vif argent du flot d'un ruisseau.
Il planta son regard dans le mien.
Circé, je n'ai jamais été aussi heureux.
Je lui rendis son sourire. Je ne voyais rien d'autre que le garçon que j'aimais qui resplendissait enfin. Chaque honneur qu'on lui prodiguait, chaque hôtel construit en son nom, chaque admirateur qui le sollicitait était pour moi autant de cadeaux, car il m'appartenait.